Bonsoir à tous, Sporama, c'est parti. Tous les lundis, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Vous pouvez nous écrire à fr@voanews.com ou tout simplement sur la page Facebook de Sporama. Évidemment, dans ce studio, ravi de vous retrouver au micro, Nicolas Pineau. On va d'abord saluer nos intervenants ce soir. Élisée Ongpatine depuis Boïcon, c'est au Bénin. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas Pineau et bienvenue au Bénin.
Allez, un plaisir également de retrouver depuis Libreville, Jules Valentin Gouet. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et messieurs, l'actualité sportive africaine, on va changer pour une fois, c'est pas du football, hein. C'est évidemment du basket, le sacre à Maputo de l'Angola. Les Palancas Negras ont battu hier en finale de l'Afrobasket Dames, les Mozambicaines 64-61 après prolongation. Un mois après le titre gagné par l'équipe masculine, l'Angola frappe donc une nouvelle fois très fort sur la scène internationale. On va nommer évidemment Nacicela Moriccio, élue meilleure joueuse du tournoi. Alors évidemment, Jules Valentin, on va le dire, c'est un peu bis repetita chaque année ou tous les deux ans sur les compétitions continentales. L'Angola qui domine encore une fois.
Oui, l'Angola qui a une culture de basketball, c'est indéniable en Afrique et qui a su s'organiser à ce niveau. Les basketteurs angolais, comme les basketteuses d'ailleurs, gagnent très bien leur vie au pays et on le voit à tous les coups, ils font des résultats. Mais il faut dire que il n'y avait pas que l'Angola, le tournoi était très relevé, très intéressant, surtout à partir des demi-finales.
Merci beaucoup Jules Valentin, évidemment. On va parler de cette terrible statistique pour les Mozambicaines. C'est la troisième fois que le pays organise la compétition. Et bien troisième fois que les Mambas s'inclinent en finale. Seul lot de consolation pour les Mozambicaines. Elles accompagneront l'Angola en Turquie l'année prochaine pour les championnats du monde. Sur la troisième marche du podium, on retrouve les Sénégalaises qui se sont adjugées la médaille de bronze face au Cameroun, 56-53. Là encore, les Sénégalaises imitent les Lions du Sénégal qui avaient aussi décroché le bronze à l'afro-basket masculin. Les Sénégalaises qui devaient atterrir ce soir à Dakar, 18h temps universel. On va écouter l'interview que m'a accordé tout à l'heure Madi Ndiaye. Il est le secrétaire général de la Fédération Sénégalaise de basket.
Bon, le Sénégal a obtenu une médaille de bronze. Ce n'était pas ce que nous cherchions au départ. Mais je pense que l'essentiel, c'est que nous sommes au moins sur le podium. Ça, c'est le minimum pour le Sénégal. Il faut féliciter les joueurs, féliciter toute la délégation. Et maintenant, au retour, peut-être analyser pour voir vraiment qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais quand même, une médaille de bronze, on était 12 équipes. Je pense que se qualifier troisième, ce n'est pas quelque chose qu'il faudra rejeter.
Mamandia, on vous sent déçu par ce résultat?
Déçu, oui, parce que l'ambition du Sénégal, c'était au moins d'aller au championnat du monde. Nous avions l'habitude. C'était ça l'ambition du Sénégal. Après l'échec de Bamako, nous pensions pouvoir résorber ce qui s'est passé et remporter le titre, ou au moins aller au championnat du monde. Donc c'est une déception, mais à défaut, on se contente de la troisième place. On va encore travailler pour rester à la place qui est la sienne au sein du quota de basket féminin particulièrement.
C'est quand même une satisfaction après la médaille de bronze obtenue par les garçons.
Oui, pour les garçons, c'est une satisfaction. Les garçons, l'objectif, c'est d'aller au championnat du monde. Je pense que tout dernièrement, à Madagascar, il y a deux ans, on était cinquième. Cette fois-ci, on est sur le podium. C'était l'objectif. Je pense qu'on peut réellement nourrir, si on continue dans cette progression, pour la prochaine compétition, c'est au moins jouer la finale. Et je pense que c'est un objectif légitimement que nous pouvons aspirer à cela. Donc, on peut se réjouir d'avoir deux équipes qui ont eu à jouer. Les Afro-Basket, c'est déjà ça. Et chacune des équipes, en tout cas, a joué des rôles assez intéressants. On s'est trouvé une troisième place pour des fortunes diverses. Mais je pense que c'est pas, on ne peut pas cracher dessus. Maintenant, le Sénégal, les équipes avaient habitué le pays à des finales et des coupes. C'est un peu là où il y a un peu de la déception. Là, c'est où nous sommes. Si on arrive à tirer les enseignements, c'est des résultats non négligeables, en tout cas.
Et qu'est-ce qui manque au Sénégal pour atteindre le même niveau que l'Angola?
Les moyens. Je pense que c'est les moyens. Quand on se rend compte que pour le programme annuel que le Sénégal avait prévu pour préparer les deux Afro-Basket, masculin et féminin, les deux champions du monde U18, garçons et filles, nous avions prévu un budget de 800 millions et nous en avons reçu 170. Alors que d'après nos échos, l'Angola, pour uniquement l'Afro-Basket d'Abidjan, ils ont un budget de 1 milliard. De même que pour l'Afro-Basket, je pense que c'est les moyens qui nous manquent pour pouvoir dérouler un programme cohérent qui devrait nous permettre de mettre nos équipes sur orbite, regrouper nos meilleurs joueurs et à l'arrivée, avoir en tout cas une équipe compétitive prête.
L'Angola, c'est vraiment le modèle selon vous?
Oui, l'Angola, c'est un pays qui a opté pour le basket. Je pense que le Sénégal en devrait en faire autant parce que quand même le Sénégal, c'est un pays de basket. En 50 ans d'indépendance, avoir une vingtaine de titres africains, je pense que c'est pas négligeable. Donc 10 chez les filles, 5 chez les garçons, en compter les titres au niveau des autres catégories, les titres au niveau des clubs, pense que le pays devrait opter pour le basket et en conséquence mettre des infrastructures en place qui devraient permettre à tout un chacun de compétir ou de faire du basket et que les meilleurs puissent en tout cas émerger pour jouer dans les meilleurs championnats et pouvoir répondre positivement à l'appel de l'équipe nationale du Sénégal.
Voilà, Madine Diaye est le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de basket. Élisée Oumpatine, c'est pas nouveau, un manque de moyens en Afrique. Est vraiment déçu, hein, Madine Diaye. Hein.
Bien évidemment, vous l'avez interviewé, il a parlé de certains nombres de près de 800 millions de francs CFA et que là, ils ont reçu que une centaine de millions de francs. Vous voyez, déjà, c'est ça qui fait défaut en Afrique. Et là, on ne pourra pas notamment renforcer nos équipes nationales en cas de ces genres de compétition. Une fois encore, l'Angola qui met les moyens, énormément de moyens à survoler la compétition. Nicolas, il faut aussi féliciter hein, la vaillante formation camerounaise qui a fait forte sensation dans cette compétition. Elle voulait faire tomber quand même les Mozambicaines en demi-finale. C'est-à-dire que par manque de conditions physiques, elles ont peiné en fin de rencontre, elles se sont inclinées. Et aussi, il faut noter que ça fait la deuxième fois seulement dans l'histoire qu'un pays remporte dans la même année la compétition continentale, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et le Sénégal, justement, l'avait fait en 1997 quand les hommes ont gagné la CAN et en même temps les femmes. Aujourd'hui, les Sénégalais doivent mettre les moyens pour pouvoir retrouver ces sports qui manquent tant à ce pays-là.
Et 1997, hein, il y a 16 ans déjà, messieurs. Et oui, ça nous rajeunit pas. Hein. Bon, moi, je suis encore jeune, donc ça. Écoutez, on va poursuivre. Et évidemment, Sporama, restez tous branchés derrière vos postes. Et Sporama pour les jeunes et les moins jeunes. On va parler maintenant du casse-tête à venir pour les organisateurs du 27e tour du FASO, la grande fête du cyclisme africain qui doit s'élancer le 25 octobre prochain. On parlait de moyens tout à l'heure, vous allez l'entendre, à quelques jours du démarrage de l'épreuve, le comité d'organisation ne dispose pas des fonds nécessaires. On va écouter le reportage très éclairant de Salif Kabore.
L'édition 2013 du Tour cycliste international du FASO s'annonce, mais avec beaucoup de difficultés. Si au plan organisationnel, les responsables du Tour du FASO se disent confiants, il n'en est pas de même au plan financier. Pour un budget de 400 millions de francs CFA, les organisateurs du Tour du FASO ont du mal à réunir les fonds nécessaires, car l'apport de l'État, qui s'élève à 160 millions de francs CFA, reste très insuffisant. Alassane Wangrawa est le président du comité d'organisation.
Le minimum pour que nous puissions fonctionner réellement, il faut que nous ayons une enveloppe de 360. Ça, c'est un minimum. Et si nous avons 400 millions, ça, on organise parfaitement le tout. J'insiste pour dire, nous demandons l'appui supplémentaire de l'État burkinabé. Mais je n'ai pas dit et je n'ai jamais dit que l'État burkinabé n'accompagne pas le Tour du FASO. Je persiste et je signe que depuis que je suis venu, au moins ça, je peux le dire, que l'État accompagne le Tour du FASO à une hauteur de 160.
La mobilisation des fonds se fait donc toujours attendre à quelques semaines seulement du top de départ de l'épreuve, d'où l'amertume du régisseur et créateur du Tour du FASO, Francis Ducreux.
Il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises. Il n'y a toujours pas des problèmes organisationnels, mais des problèmes de financement, parce que le Tour a un budget quand même de 400 millions. Nous savons que l'État apporte 160 millions, plus bien entendu à côté tout ce qui est la partie, une partie matérielle, que ce soit la sécurité et autres. C'est déjà énormément. Et après, bien sûr, il y a la publicité. Mais la publicité, comme vous connaissez la conjoncture actuelle, je dirais, elle n'est pas uniquement au Burkina, mais dans le monde entier. Il y a des problèmes partout. Donc il est difficile d'aller rechercher derrière plus de 200 millions de francs CFA. Le Tour du FASO est le tour le plus grand d'Afrique. C'est le seul, je le dis, je le répète assez souvent, c'est le seul et unique qui perdure depuis 27 ans sans interruption. Il a servi de locomotive à tous les pays de la sous-région.
Pourtant, les cyclistes burkinabés n'attendent que le démarrage de cette édition. Car pour Asmane Ouedraogo, capitaine des étalons cyclistes, au niveau de la sous-région, le Burkina Faso reste imbattable.
Avec nos équipes, c'est nous les plus forts après les Ivoiriens et puis les Sénégalais qui suivent et puis les autres équipes. Vraiment, ils se battent, mais le niveau est très élevé pour eux.
Mais cela, le président de la Fédération burkinabé de cyclisme reste prudent, car pour lui, 2013 connaîtra une autre coloration de participants. Alassane Wangrawa.
Gagner trois fois successivement un tour comme le Tour du FASO, en tant que président, je veux bien. Mais je sais que ça va être difficile. Ça va être très difficile. parce que je ne pense pas qu'un pays qui a pu le faire successivement depuis les 26 ans passés. Alors, les autres pays qui vont venir, vont-ils permettre au Burkina, effectivement, de tripler? Je ne pense pas. Ils ne vont pas nous laisser, ils vont nous rendre la tâche difficile. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons en tout cas baisser les bras. Aussi, on nous impose des équipes qui sont supérieures à nous. Pourquoi l'UCI le fait? Parce qu'effectivement, c'est pour booster le cyclisme sous-régional et puis aussi donner un autre niveau au Tour de France. Donc, il y a deux équipes continentales qui arrivent. Une équipe continentale belge et le club Sovac, qui est une équipe continentale africaine, qui présentement est déjà en Europe pour se préparer pour le Tour de France. Alors, ça va être difficile pour les Burkinabés, mais impossible n'est pas Burkinabé.
C'est donc avec des sentiments partagés que le Tour de France 2013 se prépare. Ouagadougou, Salif Kabore, La Voix de l'Amérique.
Voilà pour ce reportage très instructif de Salif Kabore. Jules Valentin Gouy, vous êtes à Libreville. Ce serait vraiment dommage que cette belle compétition, évidemment, ne puisse pas briller faute de moyens. Et on se souvient que malgré le retrait d'Assaut à Maurice Sport, organisation qui organisait évidemment ce Tour du Faso comme ils organisent le Tour de France, le Tour avait réussi à survivre grâce à des financements locaux. Est-ce qu'on ne commence pas à souffrir justement du retrait de cet organisateur européen?
Oui, bien sûr, et c'est dommage pour ce grand classique du cyclisme en Afrique, un des plus grands rendez-vous, si ce n'est, disons que le plus ancien. Et on se dit que le cyclisme qui demande autant de moyens a vraiment besoin de beaucoup de sponsors, de poids. Et il est vraiment dommage que l'État burkinabé ne puisse pas tenir le coup en dehors de ses sponsors. Donc, vivement que nous retrouvions des sources d'approvisionnement sur le plan financier et que le Tour du Faso reprenne son lustre d'antan.
Voilà, et le coup d'envoi du Tour du Faso 27e du nom, ce sera le 25 octobre. Voilà, on va parler d'un autre sport africain à l'honneur. Pour une fois, on ne va pas tout de suite parler de football. On va à présent parler de volleyball, l'édition 2013 de la Coupe d'Afrique des Nations de la Zone 3. Le tournoi a eu lieu au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Et à l'arrivée, c'est le Ghana qui s'impose chez les hommes comme chez les femmes. On va écouter et on en parle avec lui dans un instant, le reportage d'Élisée Oumpatine.
La 6e Coupe d'Afrique des Nations de volleyball de la Zone 3 a pris fin au Hall des Arts à Cotonou. La finale homme a mis aux prises le Ghana et le Niger. À l'issue de la rencontre, c'est le Ghana qui a montré sa suprématie en remportant tous les 3 sets. Un score qui, évidemment, ne réjouit pas les voleurs nigériens. Écoutons le capitaine de l'équipe nigérienne qui dit ne plus reconnaître ses coéquipiers dans leur jeu. C'est Seydou Barry.
L'action la plus simple dans le volleyball nous est difficile aujourd'hui. Et les Ghanéens ont su exploiter ce problème-ci, parce que le premier adversaire, c'est notre propre équipe. Comme d'habitude, on le fait, on joue un bon tournoi, mais à la fin, on pêche. Du coup, on n'emporte pas ce trophée tant voulu,
au
fait.
Au niveau des dames, c'est encore le Ghana qui tient la trajet route au Burkina Faso à l'issue d'une rencontre disputée, score 3-7-2. Le Bénin est troisième au niveau des dames et cinquième au niveau des hommes. Pour le président de la Fédération béninoise de volleyball, Didier Akloghan, cette prestation n'entache en rien la qualité de la compétition.
Avec ce tournoi de la zone 3 qui s'est déroulé sans heurts et sans difficultés, sans problème chez nous, nous en sommes heureux. Nous avons gagné le pari de l'organisation. Et maintenant, pour les prochaines éditions, ici ou ailleurs, il nous faut gagner le pari sportif sur lequel nous avons commencé à travailler. Nous avons vu une très belle équipe du Ghana, une équipe du Niger qui a très bien progressé et une équipe béninoise totalement rajeunie qui nous a donné des résultats qui ne sont pas au-dessus largement des autres équipes. Les filles ont quand même battu le Niger et le Togo. Les garçons ont tenu la trajet haute aux meilleures équipes du tournoi et nous espérons que la prochaine fois, ça ira encore mieux.
Optimiste également du côté du secrétaire général de la fédération. Pour Ali Yaro, le fait pour le Bénin d'avoir rajeuni ses effectifs augure d'une bonne relève d'ici quelques années.
Nous avons du travail. Pour moi, le plus important, c'est de tirer le son de ce qui s'est passé pour pouvoir continuer à travailler. Et je l'ai dit, quand on voit un peu la forme de nos équipes, quand on voit un peu l'âge de nos joueurs, pour moi, le plus important, c'est dans 3 ans. Si on met toujours ces enfants-là au travail, si on leur offre des petites compétitions, je crois d'ici à 3 ans, on pourrait commencer par reparler du Bénin. thème de volleyball au niveau de la zone.
Ali Yaro revient ici sur l'historique des Coupes d'Afrique des Nations de zone, notamment celle de la zone 3.
Les pays de la zone 3 n'ont pas toujours les moyens de participer aux compétitions africaines. Ça, c'est le constat a été fait. Si bien qu'en 1996, entre-temps avec la population française, on s'est entendu pour nous offrir une compétition de zone à nos équipes nationales parce que nos pays n'ont pas les moyens d'aller toujours au Maghreb pour faire les grosses compétitions. Donc c'est de là qu'est née cette compétition-là qui entre-temps a évolué avec le temps. Au début, nous étions 4 pays et aujourd'hui, nous sommes 8 avec la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria qui sont venus rejoindre. C'est pour vous dire que si entre-temps, un des pays de cette zone pouvait aller faire une compétition africaine, je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Il faut signaler que 5 équipes nationales seniors, hommes et dames ont pris part à ce tournoi sous-régional. Il s'agit du Burkina Faso, du Niger, du Togo, du Ghana et bien évidemment du Bénin. Élisée Oumpati, Boycon, La Voix de l'Amérique.
Voilà pour le joli reportage d'Élisée Oumpati. Élisée, vous êtes avec nous, évidemment. Alors cette compétition, la suprématie ghanéenne dans la sous-région, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oui, c'était évident, puisque lors de la précédente édition qui a eu lieu à Ouagadougou, eh bien, les Ghanéens se sont illustrés, notamment chez les dames. Le Ghana a amené une équipe expérimentée. Par contre, quand vous prenez la sélection burkinabé, la sélection nigérienne ou encore la sélection béninoise, ce sont des équipes qui ont été rajeunies pratiquement. Par contre, chez les Ghanéens, à chaque année, on amène une équipe expérimentée pour pouvoir gagner cette compétition. Vous avez entendu Ali Rayo, Ali Yaro, j'y arrive. C'est un tournoi majeur et qu'il faut prendre des points, qu'il faut tailler d'importance. Donc, raison pour laquelle les Ghanéens, à chaque édition, essaient d'amener une équipe expérimentée pour pouvoir dicter leur loi aux autres formations présentes.
Merci beaucoup Élisée. Ne quittez pas, Sporama se poursuit depuis les ondes de la Voix de l'Amérique. Allez, 19h21, temps universel, il est temps de parler un petit peu de football. On va parler évidemment des matchs de barrage qualificatifs pour la Coupe du Monde 2014 dans la zone Afrique, puisque le calendrier commence à se dégager. Les Ivoiriens qui accueilleront les Sénégalais à Abidjan le 12 octobre prochain. Et pour le match retour, la fédération sénégalaise a choisi Casablanca au Maroc. Vous le savez, le stade Léopold Sédar Senghor est suspendu depuis les incidents. C'était justement au cours d'un Sénégal-Côte d'Ivoire. C'était en novembre 2012 pour les éliminatoires de la CAN 2013. Alors Jules Valentin, est-ce que finalement il y aura du soutien pour les Sénégalais? On sait qu'il y a quand même une forte communauté sénégalaise au Maroc, notamment les étudiants. Est-ce que c'est pas un petit handicap pour les Lions de la Teranga?
Oui, c'est un choix judicieux pour les Lions de la Teranga. Il y aura probablement un grand soutien au Maroc pour le Sénégal. Et donc, les Sénégalais ne pourront pas dire qu'ils ont perdu totalement le soutien de leur public avec la pénalité qu'ils ont eue, que l'on sait. Mais je crois que le Sénégal jouera à armes égales avec la Côte d'Ivoire sur ce terrain.
Eh oui, on va voir ça évidemment, les Sénégalais entraînés par Alain Giresse. L'autre rencontre du samedi 12 octobre, ce sera le Burkina Faso qui tentera de faire la différence face aux Algériens à Ouagadougou. Et pour ça, on va en parler avec Richard Zongo, un auditeur qui nous appelle depuis Ouagadougou. Bonsoir Richard. Richard, est-ce que vous nous entendez Richard?
Allô?
Voilà, Richard Zongo est avec nous. Alors Richard, vous m'aviez dit avant qu'on prenne l'antenne que vous seriez au stade du 4 août. Alors quelle ambiance vous promettez aux Algériens dans le stade? Voilà, bah visiblement on a des soucis pour joindre Richard Zongo. On va passer à l'autre match. Élisée Oumpati, ça va être une belle rencontre entre les Burkinabés justement et les Algériens.
Bien évidemment, c'est un match qui sera disputé de bout en bout face à l'équipe algérienne qui a raté de peu cette Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en Afrique du Sud. Donc, l'objectif c'est de se faire qualifier cette équipe pour la prochaine Coupe du Monde. Ali Lodic, le sélectionneur serbe de cette équipe, a l'obligation de faire qualifier cette équipe. Mais en face, il y aura les Burkinabés qui vont avoir besoin de résultats, histoire de se qualifier pour une première fois dans leur histoire pour une phase finale de la Coupe du Monde. Puisque finaliste de la dernière CAN, il faudrait avoir ce statut-là pour pouvoir passer l'étape algérienne. Donc ça s'annonce un peu compliqué pour les deux équipes.
Alors maintenant, on a ce match intéressant. On va parler un peu moins des Éthiopiens qui vont jouer leur chance contre les champions d'Afrique, les Nigérians. Mais moi, le match dont j'ai envie de parler avec vous, messieurs, c'est évidemment le Tunisie-Cameroun à Rades le dimanche 13 octobre. Alors, avec ou sans Samuel Eto'o ? On sait que le capitaine avait évidemment annoncé sa retraite internationale. Et pourtant, le sélectionneur a convoqué Samuel Eto'o. Il est dans la liste des 26. Alors, Jules Valentin, vous connaissez bien cette équipe camerounaise avec ou sans Samuel Eto'o ?
Probablement avec Samuel Eto'o, parce qu'il y a déjà une grande confusion sur le retrait de Samuel et ma foi, tous les commentaires qui ont été faits à propos de cela et nous laissent relativement dubitatifs. Je crois que, vu l'importance de la rencontre et aussi la pression des autorités et du public, ce match se jouera sûrement avec Samuel Eto'o.
Alors, votre avis là-dessus, Élisée Oumpatine, la faute à qui finalement ? Est-ce que Samuel Eto'o est si indispensable que ça aux Lions indomptables ? Comment vous analysez ce faux départ ?
Vous avez déjà deviné, Samuel Eto'o est indispensable pour cette équipe. En Afrique, c'est pareille chose là qui arrive souvent dans nos sélections aujourd'hui. Le Cameroun a besoin de Samuel Eto'o, puisque quand vous prenez la sélection, il n'y a pas un attaquant de ce niveau-là. Et le Cameroun a besoin de lui aujourd'hui pour passer cette étape qui s'annonce très difficile. Donc aujourd'hui, le sélectionneur n'a fait qu'appeler Samuel Eto'o, qui va certainement accepter, puisque le gouvernement va mettre la pression sur ce dernier.
Ah, il y en a beaucoup des joueurs incontournables. Hein. Les Didier Drogba pour les éléphants ivoiriens, les Emmanuel Adebayor. Est-ce que c'est pas justement un petit peu dommage, finalement, Jules Valentin, quand on voit des belles sélections comme les Zambiens ou alors encore les Ghanéens avec plusieurs individualités assez fortes ?
Oui, mais faut dire aussi que dans toutes les équipes, et même les équipes hors du continent, on a vu l'influence de Zidane en France qui imposait Dugarry, on a vu l'influence de Pelé dans l'équipe Brésil. Et donc, on construit l'équipe généralement autour du leader d'un grand joueur et on donne la possibilité qu'il s'exprime le mieux possible. Donc, il a quelque chose à dire sur la composition de l'équipe. L'équipe camerounaise actuelle est extrêmement défensive, elle n'a pas de mouvement au milieu de terrain et Samuel Eto'o le décrit, ça le met en danger, en attaque, et les couloirs ne fonctionnent pas et il en parle mais rien ne change. Bon, donc je crois que les grands joueurs dans ces équipes-là doivent être écoutés et généralement ils sont nationalistes.
Ah, les Lions indomptables qui ne peuvent être domptés que par Samuel Eto'o. Merci beaucoup Jules Valentin, on va juste vous donner des informations sur le match Ghana-Égypte qui se déroulera le 15 octobre à Koumassi. Le match retour s'est annoncé, se jouera au Caire devant un public égyptien de feu. Je vous rappelle que ce sera le premier match disputé devant des tribunes pleines de supporters devant le drame de Port Saïd, c'était en février 2012. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Sporama sur les ondes de la Voix de l'Amérique. On va parler d'un autre sport dont on devrait parler plus souvent sur les ondes de la Voix de l'Amérique. On va parler de kickboxing, évidemment, puisque la compétition, notamment le championnat du monde de full contact et de kickboxing, se déroule à partir de demain à Sao Paulo, c'est au Brésil. Eh bien, l'équipe du Gabon tentera de faire bonne figure. On va écouter la présentation de cette équipe depuis Libreville avec notre correspondant Fritz Koum.
Il s'agit de Gabriel Ndong, moins de 64 kilos, Carlo Rapochombo, moins de 60 kilos, et Ikapi Zamba, chez les moins de 57 kilos. Si la fédération voulait engager les 10 combattants qui ont fait la préparation, elle s'est heurtée cependant au manque de moyens financiers, compte tenu du coût élevé du titre de transport. Mais en retenant 3 combattants, le bureau fédéral dirigé par Eric Ella a aussi obéi à la volonté non seulement de maximiser les chances en misant sur des valeurs sûres aguerries à la haute compétition, mais également de respecter le contrat de performance imposé par le ministère des Sports. Notons que la délégation gabonaise qui a quitté Libreville jeudi se trouve au pays au Rivière depuis samedi dernier. Fritz Koum, La Voix de l'Amérique.
Voilà pour ces détails avec Fritz Koum. Et puis on va vous parler, messieurs, avant de se quitter, évidemment, l'exploit du week-end. C'est évidemment le nouveau record du monde de marathon lors de la 40e édition de l'épreuve à Berlin. Eh bien, Wilson Kipsang a couru comme une fusée en 2h03 et 23 secondes. Ça, c'est un temps qui fatiguerait Idriss Fall. Hein. Eh bien, le Kenyan de 31 ans qui a amélioré l'ancien record du monde détenu par son compatriote Patrick Mako depuis sa victoire à Berlin en 2011. Jules Valentin Gouet, très rapidement, évidemment, suprématie des Kenyans sur la course de fond. Hein.
Oui, suprématie des Kenyans qui font un petit pied de nez justement à leurs adversaires de toujours, les Éthiopiens.
Merci beaucoup Jules Valentin. Voilà, on va bientôt se séparer. Merci à tous de nous avoir suivis sur Sporama. Je rappelle l'adresse, hein, évidemment, Sporama, si vous voulez nous écrire sur la page Facebook de Sporama. Ainsi va s'achever notre émission Sporama. Merci à tous de nous avoir suivis sur les ondes de la Voix de l'Amérique. On va faire un grand coucou à Jules Valentin Ngoué qui était avec nous depuis Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas. Et surtout, à très bientôt.
À très bientôt, Jules. On va remercier évidemment Élisée Oumpatine à Bouicon. C'est au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nico, tout le plaisir pour moi.
Et un grand merci à tous nos auditeurs. Vous pouvez continuer à nous écrire à fr@voanews.com. On va aussi remercier derrière la vitre la mise en onde de Michel Joseph. Nicolas Pinault était à la présentation. On va vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Washington, la voix de l'Amérique, le monde aujourd'hui. Il est 19h30.